Radio Prague, les informations.
Le Congrès des Verts a raffermi la position de Martin Bursi qui a été réélu président du parti. Les ministres de la Justice de 6 pays européens se sont exprimés à Prague pour une Europe juste. Les syndicats haussent le ton. Martin Bursik, ministre de l'Environnement au sein du gouvernement de Mirek Topolánek, a été réélu président du Parti des Verts. Il devait faire face à une rude campagne menée par l'ancienne ministre de l'Éducation, Dana Kurtová, qui n'a finalement obtenu que près d'un tiers des voix. Celle-ci n'a pas réussi non plus à défendre son poste de première vice-président du parti, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Ondřej Liška, qui a été élu à sa place et qui sera désormais le numéro 2 des Verts. L'amélioration de la qualité des normes législatives et leur plus grande transparence, le renforcement de la protection des enfants et des données personnelles, l'élargissement des droits des victimes, le soutien de la lutte contre le crime organisé, telles devraient être les principales priorités de la future politique de l'Union européenne dans le domaine de la justice. Ce constat a été dressé par les ministres de la justice de 6 pays membres, la Tchéquie, l'Allemagne, le Portugal, la Slovénie, la France et la Suède, qui se sont rencontrés à Prague. Une hausse de 8% des salaires dans la sphère de l'entreprise. Cette demande a été formulée ce dimanche dans un débat télévisé par le vice-président de la Confédération tchéco-morave des unions syndicales, Jaroslav Zavadil. En outre, les revendications salariales concernant le secteur public seront au menu des négociations entre le gouvernement et les syndicats qui se dérouleront la semaine prochaine. Le président tchèque Václav Klaus s'est rendu au Japon pour discuter des relations bilatérales et des relations Japon-Union européenne avec le premier ministre japonais Yasuo Fukuda. Monsieur Klaus, qui est farouche opposant à la théorie du réchauffement global, prononcera en outre lundi un discours sur les problèmes concernant le changement climatique. Il l'a pour intitulé « La panique absurde autour du réchauffement global ». Le nombre de touristes venant des anciens pays membres de l'Union européenne a tendance à diminuer. Selon les dernières données, leur nombre a été le plus bas depuis l'an 2000, soit 56% du chiffre total des touristes. Le traditionnel Festival international du film documentaire de Jihlava se déroulera entre le 24 et le 29 octobre prochain. Une nouvelle section réservée aux documentaires expérimentaux fera partie du festival, qui sera cette année à sa 12e édition. Météo, ce lundi, le jour de fête des Mariana, Marianne bien sûr, le ciel se dégagera en partie, un ciel qui a été ouvert ce dimanche, mais il fera un peu plus froid, avec des températures ne dépassant pas 23 degrés. C'était le journal présenté par Alena Gabertova. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubista.
Bonjour. La femme à barbe, le lilliputien, la petite fille géante ou encore la sirène, tout ce petit monde étrange et dérangeant, et bien plus encore, se retrouve sous le chapiteau des éternels saltimbanques, les frères Petr et Matthieu Forman, dignes fils de leur célèbre père réalisateur. Tout ce qui est différent fait peur, tout ce qui ne correspond pas à la norme rend méfiant. Autrefois, on montrait les êtres difformes dans les cirques. Aujourd'hui, les frères Forman décident de leur rendre hommage avec tendresse et humour, un peu à la manière de Todd Browning et sa monstrueuse parade dans les années 30. Leur nouveau spectacle s'appelle Obludarium. Obludarium, c'est un jeu de mots entre le mot obluda, monstre en tchèque, et planétarium ou aquarium, dit Petr Forman. Sa première tchèque, ce sera dans le cadre du Festival international du théâtre Appelzeň qui commence le 10 septembre et s'achèvera le 19 septembre. Dans cette émission, donc, je vous propose d'écouter Petr Forman nous parler de ce fameux Obludarium.
« vocabularium.
Tout simplement. C'est avec mon français. C'est, désolé. On peut dire, c'est entre le cirque, cabaret, bar, nightclub, je sais pas. Mais tout ça, c'est une inspiration. Tous ces endroits, c'était une grande inspiration pour nous. Mais derrière ça, on a essayé de créer un spectacle, de découvrir de petites histoires, des personnages qui sont dedans, dans l'Oblurarium. Et puis, Oblurarium, je sais pas si ça se comprend bien le nom, mais c'est, chez nous, c'est un peu comme Freak House. Je sais pas si en français le nom.
Justement, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, quand on voit un petit peu, alors certes, voilà, c'est pas encore passé ici en République tchèque, sinon dans des spectacles, disons, privés, mais c'est passé en France. Et ça fait beaucoup penser, en fait, les personnages qui apparaissent au film de Todd Browning, Freaks.
Voilà, c'est pas exactement ça, mais vous pouvez imaginer que ça, c'est aussi un monde qui nous donne beaucoup d'inspirations. Ce qu'on a essayé de un peu rentrer plus dans la petite histoire de différentes personnalités, mais en plus, bien sûr, de créer d'autres choses qui sont pas réelles peut-être, mais qui ont provoqué de cette atmosphère de cirque ou Oblurarium ou de cabaret.
Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ces personnages un peu en marge, c'est-à-dire je pensais à la femme à barbe, au nain, à tous ces personnages qu'on retrouve, justement ces monstres d'une certaine façon?
Alors c'est un monde qui nous toujours provoque ou qui nous on est peur de voir les gens qui sont handicapés ou qui sont, c'est pas bizarre, mais en même temps on n'arrive pas de tourner les yeux de l'autre côté, on est obligé de regarder si on se croise. Mais ça, c'est le premier plan, toujours. Bon, on n'est pas trop intéressé, souvent, si on se croise qui est derrière, comment les gens sont dedans, qu'est-ce qu'il y a l'histoire derrière, pourquoi ils sont comme ça. Mais en fait, au général, je peux dire que ça, c'était un choix de rentrer dans ce monde, parce que l'idée de Oblurarium, c'était tourner pas seulement dans le grand village ou le festival, mais aussi dans la petite village. Alors, c'était pas au début une idée de faire Oblurarium, un cabaret comme ça. Mais c'était plus de essayer de chercher une monde qui peut, pour que le public dans la petite village ait pas peur de rentrer. Si vous imaginez, si on a par exemple, c'était la première idée de faire une Shakespeare, mais si vous venez dans la petite village avec la pièce de Shakespeare, peut-être ça, en premier plan, ça enlève un peu de public, quelqu'un qui, ce que les gens pensent, je parle de petite village, le théâtre c'est pas pour nous, ils ont peur de rentrer. Alors pour ça, on se dit qu'on va essayer quand même un peu couvrir dans un monde qui est plutôt naturellement proche d'intérêt de gens.
Et puis, c'est un peu une manière de renouer avec une tradition des comédiens ambulants, j'allais dire, par exemple, du 19e ou de l'entre-deux-guerres.
Voilà, ça aussi, mais comédiens ambulants, nous, en général, on a toujours voyagé comme ça, c'est-à-dire, si on a maintenant le tente, la structure, le caravane autour, si on est entre montage, démontage, jouer dedans et tout, ça, c'est pour nous, c'est un peu naturel, parce qu'à partir de baraque qu'on avait fait avec Dromesco, Boals écarlate, qui était créé sur le bateau, sur le péniche, et notre petit spectacle qu'on a fait avant. On a toujours voyagé, on est sur la, voilà, on a monté la structure, resté à côté, joué dedans. Ça, c'est pas une nouveauté pour nous. Mais en même temps, c'est aussi une partie c'est ce que je crois que ce qu'il faut faire. C'est plus difficile d'aller dans la petite village et dire bon, venez à Prague voir ce spectacle dans ce théâtre. Il faut vraiment, si vous voulez jouer comme ça, il faut aller là-bas. Il faut pas attendre que le public vienne. C'est-à-dire, nous, on a le projet à la fin, il est un peu grand peut-être, mais on pense au début que vraiment et on veut suivre cette idée de voyager avec ce projet. Et pour ça, on a aussi choisi une montre qui est proche de cette depuis la période que vous mentionnez, depuis le début du siècle, ou qui est c'était naturellement que comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de théâtre fixe, et voilà. Et là, on nous suivre ça parce qu'à mon avis, c'est aujourd'hui le public il est un peu, c'est la même question. Il y a beaucoup de gens qui viennent jamais, qui viennent pas. Peut-être une fois par année dans le théâtre national, je sais pas.
Et vous parlez justement de monter et démonter une structure. Alors justement, pour ce spectacle, vous avez également un lieu particulier que vous avez fait exprès.
Voilà, c'est ça, oui. C'est un lieu qui était fait de dessiner par mon frère, Mathieu, mais après, de construction, était fait de technologiquement pour le montage par Napo, c'est un constructeur à France. Et avec Mathieu, ils ont à la fin fait la construction en métal qui peut se monter dans 3 jours. Et puis Mathieu, il a fini l'espace avec le bois autour et le décor, il a été fait par d'autres amis. Mais intérieur et tout le décor de la tente, c'était fait par mon frère. C'est-à-dire, c'est une structure qui était faite pour cet spectacle uniquement, mais il existe. Alors peut-être dans le futur, ça peut servir pour d'autres choses, mais pour le moment, c'était fait pour cet spectacle. Et aussi, il y a tout le spectacle, tous les morceaux, il compte depuis le début avec cet espace. Et comme on a une loge qui est dans le premier étage, on a compté par exemple beaucoup avec le hôtel, l'hôtel, avec l'espace entre l'étoile et puis le sol, je peux me dire. Et il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans l'air par exemple, parce que c'était fait exactement pour cet espace.
Donc un espace fait sur mesure que vous transportez d'un endroit à l'autre. Alors vous avez commencé à tourner en France et on sait que vous collaborez depuis longtemps avec le Théâtre de Rennes. Pourquoi avoir commencé avec ce spectacle en France et non pas en République tchèque?
Parce que c'était Rennes, c'était un grand coproducteur pour nous qui nous aide beaucoup, beaucoup. Et aussi ils achètent 36 spectacles à un moment où rien qui existe. Mais c'était fait parce qu'on était déjà fait plusieurs projets ensemble avec une confiance. Ils ont nous aidé depuis le début de ce projet. Et ils ont tout de suite programmé une série de spectacles, voyagé dans la petite village, chaque fois 3 spectacles à peu près. Et aussi il y avait un grand festival metteur en scène à Rennes. Et pour nous, c'était aussi, ça c'était une grande aide aussi, parce que pour ça, on a accepté de jouer au premier là-bas qu'à Tchéquie, parce qu'à ce moment ici, on avait une aide de la ville, mais c'était pas sûr si on peut avoir une aide pour jouer, par exemple, le lieu et tout ça, à Prague. Et, je parle pas petit village, ça c'est impossible, mais là, à Rennes, ils ont déjà commencé à organiser depuis tout le début une petite voyage, une petite tournée. Et puis pour ça, on a fini le spectacle, et aussi nous aider de finir le spectacle là-bas. On a ramené beaucoup de gens là-bas qui finit le travail là-bas. On a commencé à jouer. Et là, en plus, on a dans metteur en scène, il y avait beaucoup de professionnels qui viennent. Et ça ouvrir aussi des questions pour le futur, qui aiment bien le spectacle, et ça nous donne le travail pour le futur. C'est-à-dire, c'était naturellement comme ça, parce que en général, ils ont nous montré plus de confiance et intérêt. Et en plus aussi de date de festival est donnée. Et on était sûr qu'on ne peut pas jouer avant. Même là, ce n'était pas fini. La première fois, on a joué en novembre l'année passée. Et après, on revient en Tchéquie. Et toute la février, on a retravaillé les choses. Et fini le spectacle, rajouté d'autres numéros qui n'étaient pas finis. Et prolonger le spectacle, et puis revenir à France, jouer encore 15 fois, je sais pas, après à Anvers, qui avait aussi acheté toute première, et maintenant on revient à Tchèque. Mais c'est bien, c'est comme ça.
Vous travaillez énormément avec des personnes, par exemple, qu'on retrouve sur différents spectacles. Je pensais par exemple à Jaroslav Svoboda du groupe Trabant, qui a travaillé pour le 11 de Club Zuba, et également pour Oblodarium. Je crois qu'il a participé aussi à la conception de la musique. C'est important pour vous d'avoir une équipe de personnes, d'artistes avec qui vous travaillez, qui sont aussi des amis ou des proches?
Oui, je sais pas si c'est important, c'est pas un choix ce qu'on a fait avant, mais c'est comme ça. C'est vrai qu'on s'est croisé dans la vie avec différents artistes, différents gens, et quelquefois c'est tellement proche, on se sentit beaucoup plus proche et bien ensemble, qu'on a demandé voilà, de participer ou travailler ensemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup des amis qui sont avec nous depuis 8 ans ou 9 ans avec les Voiles écarlates. Et après, de chaque travail, il nous ramène beaucoup de nouveaux rencontres, beaucoup de nouveaux amis. Et naturellement, on veut plus travailler avec les gens, ce qu'on est bien, qu'on se sent bien, d'être amis en même temps, et puis qui savent bien faire quelque chose.
C'est sourd, c'est lourd.
Voilà, c'était Peter Forman qui nous parlait de son nouveau spectacle Obludarium, qui, comme vous l'avez compris, a déjà tourné en France et maintenant se présente au public tchèque. Après Plzeň au mois de septembre, ce sera à Prague de découvrir au mois d'octobre le nouveau spectacle des frères Forman. C'est la fin de Culture sans frontières. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas d'aller consulter notre site internet au www.radio.cz. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Ahoy.
C'est la pluie qui danse comme ça, un peu de peur, un peu de bonheur. C'est la joie, puis la rancœur. Le cycle des gens qui pleurent. Et c'est un peu comme s'il neigeait à Montélimar, si devant nous balayait le tout Paris, oh oui, et que chantent les guitares et que sonnent les violons, que de Strasbourg à Lyon, on passe un dielo. C'est lourd, c'est un trait d'humour. C'est sourd, c'est lourd, c'est un nouveau jour. Le ciel.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinsky.
Dans notre guide touristique de cette semaine, nous allons vous présenter les routes les plus intéressantes pour faire de la moto en République tchèque. Comme nous en avons déjà parlé dans les émissions quotidiennes, le nombre des motocyclistes augmente et malheureusement aussi le nombre des accidents de la route et de leurs victimes parmi les motards. On constate aussi que beaucoup de touristes étrangers commencent à venir à moto en Tchéquie. Voyons donc ce que nous offrent les routes et autoroutes tchèques pour y passer d'agréables moments sans pour autant faire trop monter l'adrénaline et violer le code de la route. Nous commencerons dans la région de la Bohême centrale avec une vingtaine de kilomètres sur une bonne route, l'une des meilleures dans la région et qui comprend pas mal de virages que l'on peut très bien négocier même à une vitesse assez élevée. Pour y arriver, il faut quitter Prague et prendre la direction de Česká Lípa, donc vers le nord. Les joies de la moto, vous pourrez les vivre entre les communes de Liběchov et Duba. Par contre, il vous faudra faire très attention pendant les week-ends ensoleillés, des grandes vacances surtout. En effet, cette route est devenue le paradis des motards pragois qui y viennent souvent pour tester leurs engins. Cela veut dire qu'ils violent le code de la route en roulant à des vitesses énormes et attirent ainsi la présence de la police de la route. Autrement, en semaine, la circulation est beaucoup plus calme et vous pourrez savourer une belle balade à travers les bois et forêts à une bonne vitesse de croisière sans même faire des excès. Si vous avez envie de vous rafraîchir et de rencontrer d'autres motards, arrêtez-vous à la station essence Agip à la sortie de la commune de Duba. Après cette pause, vous pouvez continuer vers le nord-est, en direction de la région de Jelezny Brod. Là aussi, une vingtaine de kilomètres vous attendent et nous vous recommandons la route qui mène de Semily à Drzkov, mais pas en semaine. En effet, le trafic y est très dense et vous devrez rouler entre une multitude de camions. Pendant les week-ends, par contre, la route est intéressante du fait qu'elle ne traverse presque pas d'agglomération. Vous pouvez ensuite continuer vers les monts des Géants ou visiter les grottes de Boskov, éventuellement les ruines du château de Navarov. Si vous êtes dans l'ouest de la Tchéquie, rien de mieux que d'essayer la route qui conduit de la célèbre ville thermale de Karlovy Vary à une autre station thermale du triangle de la Bohême de l'Ouest, Mariinské Lázně. De Karlovy Vary, vous prendrez la route numéro 20, la E49, en direction de Bečov nad Teplou, qui longe le cours de la rivière Tepla. Les motards apprécieront certainement la possibilité de rouler rapidement et de négocier de charmants virages en pleine forêt. Attention quand même, car le trafic est assez dense pendant les week-ends aussi. Si vous le voulez, vous pouvez vous arrêter à Bečov pour visiter son château médiéval. Après, continuez, non pas vers la grande ville industrielle de la Bohême de l'Ouest, Plzeň, mais prenez la route numéro 230, en direction de Mariinské Lázně. C'est l'une des plus belles routes pour pratiquer la moto en Tchéquie. Elle serpente le long de la rivière Tepla, offre pas mal de virages, et l'environnement est magnifique, au milieu de la forêt, avec de petits canyons et des gorges encaissées. En un mot, le paradis pour un motard qui ne fait pas monter son adrénaline, surtout seulement avec les excès de vitesse, mais qui sait aussi savourer le caractère romantique et sauvage de certaines régions. Ensuite, après la sortie de la vallée, vous continuerez vers la ville thermale de Mariinské Lázně, où vous trouverez maintes possibilités de bien vous restaurer, éventuellement de passer la nuit. De l'ouest de la Tchéquie, nous allons maintenant descendre vers le sud, dans la région de la ville de Prachatice. Nous nous retrouverons dans les monts de la Šumava, une région qui reste encore assez sauvage, mais où les touristes sont de plus en plus nombreux. Les 50 kilomètres qui séparent les localités de Volynie et Prachatice sont vraiment l'idéal pour faire une bonne balade à moto. La route numéro 142 va nous conduire en montagne, disons plutôt en basse montagne, en direction de la localité de Bavorov. Les premiers kilomètres ne sont pas des plus intéressants, mais cela change vite. Après Volynie, dans les 17 kilomètres de montée nous attendent. Le revêtement de la route a été fait il y a 3 ans, et les camions ne l'empruntent que rarement. Il est donc de très bonne qualité. Il n'y a pratiquement presque pas de trafic. Il y a plein de virages, et certains sont faciles à négocier, beaucoup d'autres moins. Attention, il n'y a pas que de la montée, mais aussi des descentes un peu casse-cou si le motard veut aller trop vite. Nous recommandons une bonne vitesse de croisière, tournant autour des 80 km/h seulement. Sur la route, vous pourrez vous arrêter aux ruines imposantes du château de la famille des Rönnberg à Elfenbourg, ou bien à Prachatice directement, où vous pourrez vous restaurer ou loger. Avant d'y arriver, vous roulerez aussi sur une très bonne route, mais attention au passage d'un vieux pont en bois où la vitesse est limitée à 30 km/h et où la police est souvent embusquée. Ensuite, continuez vers Volary, car la route numéro 141 vous réserve vraiment de fortes impressions à moto. En plus de cela, vous traverserez la localité de Boubín, où se trouve l'une des rares forêts vierges de Tchéquie. Cela vaut la peine d'un arrêt. Avant d'arriver à Volary, attention au virage, où les motards locaux aiment à rouler vite et dépassent souvent la ligne jaune et déboîtent sur la gauche.
Ей веру не будем, добре вінко пія, добре вінко пія, з дівчата малега. Ей веру не будем, на тей воє піва. Вербецьке дівчата, п'єкне лічка мати.
Nous allons terminer ce guide du motard en Tchéquie par la route la plus populaire, probablement, en Tchéquie. Elle se trouve en Moravie, dans la région de Zlín, l'ancienne capitale de la chaussure. Au beau milieu de forêts de hêtres, la route serpente dans les environs du château de Buchlov, d'où son nom, chez les motards, de Bluchovaki. Elle offre tout ce qu'un amateur de moto peut demander. Une large route de très bonne qualité, une grande quantité de virages et surtout pas d'habitation, à part le château qui se dresse sur une colline dans les alentours. La popularité de cette route fait aussi un peu son malheur, avec de nombreux accidents dont certains ont été mortels et des contrôles très fréquents de la police de la route. Il faut aussi faire attention à une petite faute des services de l'entretien des routes. L'année dernière, ils ont créé un petit sillon au beau milieu de la route, sur la ligne jaune, ce qui peut occasionner des dérapages des deux roues. Intention ou non, pour faire respecter le code de la route, souvent violé par les motards, on ne peut que recommander une grande attention. Pour la restauration, vous pouvez vous rafraîchir au bistrot ou Trampa. Et pour les amateurs d'histoire, le château fort de Buchlov et le château de Buchlovice sont à votre disposition. Et c'est ici que prend fin notre guide touristique de cette semaine sur Radio Prague.
Hej, bystrá voda, bystrá vodička, plaká loděvče pro Janíčka. Hej, se temný vršku zelený, kde je můj Janík přemilený. Hej, se temný vršku zelený, kde je
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.